je n'ai pas numéroté celle-ci. Bon. Alors, sixième critère, bon, tant pis. Des stratégies de réponse apparaissent-elles dans la question? Sont-elles suggérées par la phrase? Ça, c'est très fort. J'ai dit tout à l'heure qu'une belle pragmatique, c'est comme une pépite d'or. Elle contient la réponse, c'est ce qu'on a dit. Et si elle ne contient pas directement la réponse, elle contient les moyens de trouver la réponse à la question. Elle contient les moyens. Et les moyens sont des stratégies. Et c'est dans la question. Je vous montrerai quelques exemples après. Mais ça, quand vous y parvenez, l'essentiel de votre travail est accompli. Pour vous, c'est extraordinaire. Je vous souhaite de connaître ce moment où on va s'entraîner ensemble, hein, faire quelques-unes. Bon, mais ce moment génial où s'esquisse dans l'élaboration de la problématique l'ensemble de méthodes. Et je reviens sur la question du plan tout à l'heure. C'est pas le plan au sens. Voilà. Tous les axes stratégiques, toute la manière de conduire la réflexion, voire les hypothèses, sont dedans. Certains étudiants font ça tellement bien, chaque année ça se fait, hein, qu'ils mettent leurs problématiques avec des parties en couleur, et les parties en couleur renvoient directement aux hypothèses. Et là on retrouve que tout est dans la question. C'est vraiment très fort. Je préfère à ce stade ne pas donner tout de suite d'exemple, hein, parce que les exemples c'est aussi merveilleux qu'on visualise, on comprend, mais c'est aussi restrictif un exemple. C'est qu'on a tendance à se rappeler l'exemple, mais pas la structure. Et donc, dites-vous qu'il y a des phrases dans lesquelles tout est dans la structure et le seul fait de l'exprimer bien vous donne toute l'organisation du travail du mémoire. Et c'est pourquoi c'est dur de la faire, cette foutue problématique, je le répète. C'est normal qu'on sue pour y parvenir, parce que quand on a bien sué pour trouver cette foutue problématique, l'essentiel du boulot est dedans. Après, il n'y a plus qu'à le faire. Mais vous êtes guidé, c'est un guide aussi. Vous voyez? Bon, donc les stratégies de réponse apparaissent-elles envisageables? Sont-elles suggérées par la phrase et suggérées de manière plus ou moins implicite, bien sûr. Même chose pour le corpus. Ce qu'on a dit pour les réponses, ben, le corpus, il est souvent suggéré par la problématique. Hein, c'est souvent suggéré. Et quand c'est suggéré, on va le trouver assez facilement. On va le construire. Ce corpus, et comme par hasard, il va permettre de valider la problématique. Je redis encore une fois que le mot corpus est dans un sens qu'on a bien défini ici, hein, qui est un sens très large, plus large que l'on peut le trouver par ailleurs, puisque c'est une collection de matériaux entre lesquels on suppose qu'il existe des relations, des causalités, qui vont être étudiées par la problématique. C'est ça le corpus. Et c'est aussi bien des corpus tout à fait théoriques, libres, articles, bien sûr, que des corpus complètement pratiques, des films, des vidéos, des sites web, des interviews, n'importe quoi. Quand je dis des interviews, ne confondez pas, un jour en soutenance, un étudiant s'était fait un peu critiquer violemment en disant « Vous confondez corpus et population. » C'est vrai qu'en tant qu'être humain, vous n'êtes pas un corpus. Vous êtes une population. Ok. Ok. Sauf que quand on va transcrire vos déclarations dans les annexes, ça deviendra un corpus. Donc, bien que vous n'êtes pas un corpus, vos propos deviennent corpus quand ils sont soumis à analyse. Vous voyez que la distinction est certes à faire. Vous n'êtes pas un corpus, je le répète. Mais enfin, ce qu'on va étudier de vous, ça sera le corpus de vos propos. Donc, quelque part, on a le droit de dire corpus, même si population est un mot qu'on aime bien utiliser par ailleurs, comme vous savez sûrement. Bon. Critère numéro 8, critère de temporalité. 2014 va être une année d'élection, municipale, vous le savez, et européenne. Alors tout sujet qui serait lié au résultat, il se trouve que les municipales, c'est mars, c'est bon, les européennes, c'est juste après, ça peut être bon. Mais si vous prenez un sujet dont, on va dire, l'achèvement est tributaire d'une date qui est trop rapproché de votre soutenance, voire qui est largement après, ben, ça ne marchera pas. Si vous faites un mémoire de stratégie de communication politique sur les présidentielles, je veux dire, c'est vachement sympa votre affaire, mais les prochaines présidentielles, c'est pas vraiment tout de suite aux dernières nouvelles, ça sera 2017 que ça ne m'étonnerait pas, et donc je ne pense pas que vous allez soutenir votre mémoire en 2017. Vous voyez, si vous voulez faire ça, bah, essayez de tourner la difficulté pour dire qu'aujourd'hui, les stratégies sont ceci et cela. Fillon par rapport à Sarkozy, par rapport à... Bon, d'accord, mais vous ne pouvez rien conclure avant 2017. Tourner le sujet de façon à ce que vous puissiez le traiter en 2014 et pas attendre 3 ans. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que ça apparaît dans des limites raisonnables? Le raisonnable, mais aussi si vous avez les résultats juste avant, par exemple un grand événement qui va se terminer une semaine avant la date de remise du mémoire, ben, ça dépend combien d'heures vous dormez la nuit. Quoi. Si vous dormez très peu, en une semaine, vous pouvez très bien analyser. C'est pas toujours le cas. Voilà ce que ça veut dire. Ce critère, comme le critère 5, n'est pas trop méchant. Il est là pour vous aider, pour vous éviter de vous fourvoyer et de connaître l'échec bêtement parce que vous n'aviez pas pensé à ça. Ça peut arriver quand même. Le critère 9, il est facile. Les deux derniers critères sont gentils, hein, faciles. Est-ce que la question est originale? Eh bien, nous avons déjà répondu à ça tout à l'heure. Il y aura au moins quelque chose d'original, puisque si la question ne l'est pas, le corpus pourra l'être, la problématique le sera ou pas, la méthode le sera ou pas, le sujet le sera ou pas. Donc, ça n'est pas absolument essentiel. Mais je l'ai mis parce que ça peut être un moteur de votre motivation. Quand même, hein, la problématique, vous allez vivre avec pendant beaucoup de temps. Ça va organiser votre travail de tous les jours. Et si cette problématique n'est pas suffisamment excitante pour vous, vous aurez du mal à travailler. C'est pourquoi certains qui ont besoin d'une forme d'originalité suffisante pour déclencher leur motivation, j'attire votre attention là-dessus. On retrouve le côté aventurier ou pas, dont on avait déjà parlé, je crois, dès le premier chapitre. Enfin, la dernière est très facile, surtout ici, puisque les contraintes institutionnelles, telles qu'on l'a vu avant, sont faibles. Est-ce que ça s'inscrit dans les domaines scientifiques de référence? Autrement dit, est-ce que c'est bien dans le champ de l'information et de la communication? C'est tout simple. Je crois vous avoir montré que nous sommes ici très tolérants et que du moment qu'il y a suffisamment de communication, on peut prendre un sujet qui, a priori, soit un peu limite. Ce n'est pas du tout un problème si vous l'abordez sous l'angle de la communication, des outils méthodologiques et d'investigation liés à la communication, etc. Ces deux derniers, je les ai mis parce qu'ils sont importants quand même, et puis parce que dans certains cursus, je vous l'ai dit, c'est très très strict. Hein. N'oubliez pas, quand il y a un cursus dans lequel les contraintes institutionnelles sont fortes, eh bien, on a du mal. Bon, voilà, la question originale, c'est le 9, la question dans les domaines scientifiques, c'est le 10. On a nos 10 critères. Alors, ces 10 critères, voilà, un petit peu réfléchir dessus quand même. Comment s'en servir? Première question, comment les mettre en œuvre? Réponse, dans un premier temps, mettez-les en œuvre séquentiellement. Un par un, en commençant par le premier. Ils sont donnés dans un ordre qui n'est pas aléatoire, vous en doutez. Commencez vraiment par le 1. Si la réponse au 1 est positive, passez au 2. Si la réponse au 2 est positive, passez au 3, et ainsi de suite. Voilà comment le mettre en œuvre en suivant scrupuleusement la grille. Dans un second temps, quand vous serez très entraîné, quand vous connaîtrez la grille par cœur, sans avoir besoin de regarder votre papier pour dire oui, mon critère, il faut la connaître par cœur. Par l'usage, hein, pas en l'apprenant mécaniquement, bien sûr, mais par l'usage. Quand vous avez une connaissance intime de la grille, vous pouvez abandonner le fonctionnement séquentiel. Ligne par ligne, et la faire fonctionner de manière beaucoup plus globale. En prenant des paquets de critères entre eux, vous voyez, ça va plus vite. Ça permet de tout de suite s'y retrouver sur une problématique. C'est un plaisir de voir les M2 quand ils arrivent à la rentrée. En principe, un M2 qui a bien réussi sur M1, c'était le cas, sinon on va prendre M2. Hein. Bon. En N2, on voit ça de manière assez globale. Mais très franchement, attendez, c'est un peu comme pour la musique. Hein. Avant de jouer un truc qui vous fait plaisir, il y a des gens, c'est d'abord le solfège, ou bon. Peut-être faites d'abord des gammes, des exercices avant de l'aborder, sinon vous risquez fort de vous planter. Troisième considération, est-ce que l'usage de cette grille est obligatoire par l'étudiant de M1? La réponse est bien sûr que non. J'essaie de ne pas être dogmatique. Cette grille n'est qu'un outil que je mets à votre disposition. C'est un outil, et pas plus qu'un outil. C'est-à-dire que si vous décidez de vous en passer, parce que vous avez, par exemple, un autre positionnement épistémologique, c'est le droit de tout ça. En clair, ça veut dire que je ne demande pas dans les mémoires que vous fassiez un paragraphe spécial pour faire passer votre grille à la minette de la grille de faisabilité. La problématique, vous pouvez très bien me l'annoncer sans faire référence à la grille. Certains le font, et je pense que s'ils le font, c'est parce que ça leur est utile, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Vous voyez ? Alors soit vous n'en servez pas, soit vous en servez sans le dire. Je ne peux pas être plus explicite, non ? Je ne vous demande pas de mettre des notes en bas de page en disant CF, le cours de JLM pour ceci, pour cela. Ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que cet outil est très puissant, très utile. Ça, je vous le dis, c'est parce que quand même, ça fait quelques milliers de problématiques qu'il a servi. Je prends des obligations de vous en servir, vous. Bon, d'accord ? On va aborder un point un petit peu plus délicat maintenant. Un point de logique. Qui peut-être doit vous chatouiller un peu l'esprit. La grille, vous la mettez en œuvre à votre première problématique. Admettons, ça passe pas. Donc c'est logique. Dès le critère 1 au critère 2, le critère 3, c'est pas une question, paf. La question n'est pas compréhensible, paf. On répond pas par eux, par non, paf. Bon, donc, ça marche pas. Ok, vous. Vous voyez, vous énoncez, vous construisez une deuxième problématique. Vous passez à la grille. Paf, ça continue de pas marcher. C'est comme ça au début. Souvent, il faut faire 4, 5, 6, 10 et 5. La question théorique que je vous pose maintenant. Attention à la question théorique. Elle n'est pas simple. Admettons que vous ayez construit 4, 5, 6 problématiques. Que ces problématiques ne fonctionne pas, elle passe pas la grille. Ok ? Admettons. Est-ce que ça vous donne plus de chances pour que les prochaines problématiques soient valides ou pas ? Le fait d'avoir essayé 4 ou 5 problématiques qui n'ont pas été jugées valides vous donne-t-il plus de chances pour que celles qui vont suivre soient valides ? C'est une question de probabilité au niveau débutant, en calcul des probabilités. Au niveau grand débutant, comme on dit en langue. C'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous voyez bien la question ? Alors, il y a des gens qui appliquent ça à la roulette au casino. Ils cherchent, ils notent. Je ne sais rien, moi, le 32 ou le rouge. Il n'est pas tombé depuis pas mal de fois. Donc, je sais qu'il a tombé. Donc, je mets mon paquet de jetons sur la case où je sais que ça va forcément tomber, parce que ce n'est pas tombé là. Ce raisonnement est-il mathématiquement valide ? Bien sûr que non, on a vu ça avec Shannon et l'entropie, rappelez-vous, la pièce de monnaie. Je tire à pile ou face, ça tombe une fois sur pile. Bon. Je retire, ça tombe encore sur pile. Je retire, ça tombe trois fois sur pile. Oh bah forcément, le quatrième coup, ça sera face. Est-ce que le quatrième coup, il y a plus de chances que ça soit face ? Le calcul des probabilités enseigne pas du tout. À chaque fois, vous avez une chance sur deux. Parce que la pièce ne se rappelle pas, elle, qu'elle a fait pile trois fois de suite. Donc ça ne change rien aux probabilités. C'est déroutant les probabilités. Même si notre expérience humaine a tendance à dire, enfin, écoute, le piège, t'as fait trois fois du tombe sur pied, tu as bien décidé à tomber sur face quand même, non ? Vous voyez le raisonnement qu'on a ? c'est un raisonnement qui, mathématiquement, est faux. Alors, je reprends ma question, après ce petit détour par la pièce de monnaie, il y a pile ou face, vous pouvez vérifier à tout moment chez vous. Hein. Il y a des gens qui disent pile ou face pour des tas de trucs importants. Hein. Pile ou face, je vais faire le master à Saint-Etienne, ou je ne sais pas où. Bon, c'était pour s'ouvrir un peu. Donc, je reprends la question, est-ce que on a plus de chances de trouver une problématique valide une fois qu'on en a eu plusieurs d'invalides? La réponse est bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est-à-dire, ça c'est perturbant, que ce n'est pas parce que vous allez faire 3, 4, 5, 6 problématiques pas valides que pour autant la suivante le sera. Et là on aurait tendance à dire, ben, attendez, je ne comprends pas. Votre grille, à quoi elle sert alors? Rappelez-vous, j'ai dit que c'était une ruse épistémologique. C'est une ruse. Ça vous permet de débusquer ce qui est faux, mais ce n'est pas pour autant que ça vous permet de trouver plus facilement ce qui est vrai. Débusquer le faux ne vous donne pas la garantie de découvrir le vrai.
Ah.
Vous voyez le raisonnement? C'est pas tordu du tout. Hein. Peut-être que vous pouvez penser que c'est tordu, mais c'est pas du tout tordu. C'est pas parce que je débusque le faux que pour autant j'ai plus de chances de trouver le vrai. Ce sont deux catégories distinctes. Je débusque le faux, c'est le rôle de la grille, mais c'est pas pour autant qu'elle va me donner le vrai.
Ah.
Conclusion. Il y a d'une part la discussion en termes de probabilité. Je viens de la faire. Il y a une deuxième discussion, c'est une discussion qu'on pourrait appeler cognitive, psychologique. Mais je préfère dire cognitif, parce que psychologique, on va y rajouter du psy, l'affect, etc. C'est pas mon problème, c'est pas l'affect. Là, hein. Donc je veux dire cognitif. Au plan cognitif, quand on fait une problématique, on cherche les variables. On cherche à organiser les choses, comment ça se passe entre elles. D'accord? Ça marche pas. On en fait une deuxième. À nouveau, on cherche les variables. On cherche à organiser les choses entre elles, ça marche pas. D'accord? On en fait une troisième. On cherche les variables, on cherche à organiser les choses en... 4 fois, 5 fois, 10 fois. La conclusion, c'est qu'au bout d'un certain temps, on aura quand même acquis une sacrée culture pour chercher des variables. On aura acquis une sacrée culture pour chercher des relations causales, de causalité entre elles. On aura acquis une sacrée culture pour penser la logique, la structuration interne de tout ça. Donc, on aura acquis beaucoup plus de chances de trouver la probabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je déplace le problème. Je ne dis pas que celle que vous allez prendre sera forcément la bonne. Je dis que vous augmentez votre potentiel pour trouver la bonne probabilité. Vous augmentez votre potentiel pour trouver la bonne. OK? Un autre élément encore que je vous donne, donc on en est au cinquième, je crois, je ne sais plus, j'ai oublié de numéroser, peut-être 5 ou 6. À présent, c'est de dire que si votre problématique, à l'arrivée, vous vous plantez, la grille vous aura fait monter tellement haut en niveau d'exigence que votre erreur deviendra, deviendra une erreur intelligente. Je vais dire autrement, deviendra une erreur féconde. Pour dire comme ça. Et parce que conclure que sa problématique est fausse, parce qu'on s'y est pris comme un biais, c'est pas la même chose que conclure qu'elle est fausse, parce qu'on a déployé tous les moyens de son intelligence, qu'on a fait une super validation, et que le problème était tellement coriace qu'on n'a pas tout vu. Vous sentez la différence de niveau. C'est ce qui fait que même si vous répondez non à la problématique qu'on a dit tout à l'heure, vous aurez quand même une bonne note. Parce que ceux qui répondent non à une problématique et qui ont des bonnes notes, c'est les gens qui ont cherché. Comme on trouvait une qui est déjà d'un sacré bon niveau, et que, bah, malheureusement, parce que la science, c'est la science, bah, ils n'ont pas trouvé. Vous voyez la différence? C'est un moyen, on pourrait dire ça autrement, la grille, c'est un moyen d'augmenter la qualité de votre réflexion et de votre cognition, de votre capacité de modélisation. C'est un moyen de l'augmenter de manière sensible et même radicale. Je vous rappelle, problème 2, c'est pas une problématique qui vous sera demandée. C'est plein. Une par mission. Ça, si elle a 3-4 missions, ça fait 3-4 problématiques en mémoire. Plus une ou plusieurs pour la recommandation stratégique. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas développé votre capacité à problématiser de l'EMA, eh bien, ça n'a pas la peine de potentiel 2. Il y a ça aussi comme enjeu. C'est que le mémoire de M1 est propédeutique, préparatoire, par rapport à celui de M2. Et c'est cet entraînement indispensable qui va vous permettre ensuite de pouvoir concevoir des problématiques à toute vitesse. Je peux vous dire, ici comme dans d'autres facs, j'ai fait intervenir des collègues parfois, j'adore ça, on réfléchit ensemble sur les problématiques des étudiants. Je sais bien que certains sont tellement épatés par la capacité, la rapidité avec laquelle on arrive à modéliser que c'est presque, comme on dit en sport, hein, si on vous met face à un champion, c'est écœurant pour vous. Quoi. C'est un peu pareil. Tellement la capacité à problématiser va vite après. J'ajoute quelque chose, c'est cumulatif cette capacité. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à problématiser une situation, vous allez problématiser de plus en plus vite. Et de plus en plus efficacement. Ça, c'est vraiment très très agréable comme résultat cognitif. Hein, c'est les sciences cognitives qui nous l'appellent. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs. Quand on problématise, on développe un truc qui s'appelle ces réseaux sémantiques. On développe ces réseaux sémantiques. J'y reviendrai beaucoup plus tard. J'ai déjà dit une fois, mais j'y reviendrai. Donc en développant vos réseaux sémantiques, vous avez la capacité à mieux chercher les variables d'un problème. Tout de suite voir, ah bah oui, il y a telle variable, c'est comme ça, ça s'organise. Bon, tout de suite. Bref, à devenir quelqu'un d'intelligent sur un problème d'autre. Et dans le monde complexe dans lequel nous sommes, phrase archi-rituelle, archi-connue, il faut développer cette capacité de modélisation. Vous voyez, il y a tous ces enjeux derrière. C'est ce que j'avais dit au début.
Voilà donc ce qu'on peut dire de cette grille, et on va conclure sur cette définition numéro 1. La conclusion de la définition numéro 1, c'est de dire que nous avons donc une définition qui est simple, ça ne peut pas dire le contraire, pratique, je crois aussi on peut dire elle est simple, elle est pratique, facilement lisible, compréhensible, facilement mise en œuvre. Voilà. On a associé à elle une grille en 10 critères qui est redoutable pour tout ce qui n'est pas du domaine scientifique, qui vous permettent d'améliorer de manière très sensible la qualité de vos propositions. Ce n'est pas pour autant que ça vous assure la réussite à tous les coups, mais c'est un élément d'amélioration qualitative de votre aptitude à modéliser les situations complexes. Je traduis, mais voilà, c'est quand même sur la ligne. Il reste peut-être une chose à dire, eh bien, c'est que cette définition numéro 1, devait être suffisamment simple pour être accessible, c'est fait, mais doit aussi ouvrir la voie à la définition numéro 2, sans lui être contradictoire. Autrement dit, la définition numéro 1 doit contenir en germe la future définition numéro 2. Il faut que vous sentiez qu'il y a, certes, un gap, comme on dit, un saut entre la 1 et la 2, mais que la 2 n'est pas contradictoire avec la 1. Et c'est bien ce qu'on verra quand on fera la grille de la définition numéro 2, vous verrez qu'il y a continuité entre l'un et la 2, mais avec un saut qualitatif, un saut conceptuel énorme. Énorme. La grille et la définition numéro 1 sont assez faciles à comprendre. La numéro 2, vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile. On ne va pas le faire aujourd'hui. Je fais toujours, de toute façon, en dépendamment du. Du tout timing, il faut une période de sas, ne serait-ce que pour apprendre à se servir de la grille numéro 1, on se prend de la grille numéro 2. Alors, peut-être un ou deux exemples de problématiques de l'an dernier, ça serait pas mal, non? Parce que je peux prendre des exemples que j'ai en Google Drive. Alors, Master 1 2013, c'est eux. Voilà. Ça, c'est ceux de l'an dernier, donc. Hein. Voilà. Bon, enfin, qui est les noms ou pas, les noms, ne change rien. Allez, on se regarde celle-ci. Eh ben non, 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 je n'ai pas coché. C'est peut-être si vous arrivez à lire là. Oui, c'est assez gros. Ouais, c'est bon. Hein. Donc les radios. Ah oui, mais alors avec la coupure de l'écran, bon, j'y peux rien. Les radios nationales. Ou alors, je peut-être si j'y peux rien. Je peux peut-être essayer de. Voilà, si j'y peux quelque chose. Les radios nationales peuvent-elles développer une proximité avec leurs auditeurs au même titre que les radios dites locales? On sait. Je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, on s'y intéresse une seconde et on essaye de voir si ça passe la grille. Vous voyez ce que je fais? On va prendre les problématiques de vos petits camarades de l'an dernier, qui sont actuellement en M2, que vous pouvez croiser. Hein, vous en avez vu en M2, peut-être que vous en avez vu d'ailleurs, vous avez des contacts depuis ou pas?
Non,
pas trop. Bon. Je vous rappelle que ça, autrefois, on organise un peu les choses. Je vous contacte cette compagnie, mais moi, c'est la M2 de se voir ou pas se voir, ça vous regarde. On fait pas. On faisait un parrainage autrefois entre les M2, les M1, etc. Filleul, parrain, ça fait des trucs assez marrants, intégration, etc. On a même fait des soirées d'intégration, des tas de trucs comme ça. On a des tas de raisons financières essentiellement, on a cessé. Alors, les radios nationales peuvent-elles développer une proximité avec leurs auditeurs au même titre que les radios dites locales? Alors, on a la mis en tête, je vous la répète. Est-ce que c'est une question? Yes. Est-ce que c'est compréhensible? Ben, les radios nationales, c'est bon. Les radios dites locales, vous sentez la prudence de l'étudiante? Les radios dites locales, parce qu'il y a des radios qui sont locales, on sent qu'il y a quelque chose là-dessus qui ne doit pas être tout à fait clair. Si elle a pris la peine de dire dites locales, c'est que ce n'est pas forcément des vraies locales. Hein? Il y a quelque chose derrière. Et ça, seul un examen attentif, une bonne connaissance du monde de la radio, peut permettre de différencier les vraies locales, les dites locales, les machins, les trucs, ça. Vous pouvez avoir compris sur la marchandise. Quand je vais dans une jardinerie que j'achète de la terre de Bruyère, pour mes azaléas ou je ne sais pas quoi, mes hortensias, on m'a remis sur le sac terre dite de Bruyère. Vous savez bien ce que ça veut dire? C'est la terre dite de Bruyère, c'est pas la vraie. Donc les radios dites de proximité, ce n'est pas forcément la vraie. Bien. La question compréhensible, moyennant un examen attentif et intelligent, deux personnes un peu cultivées sur la question. Est-ce qu'on peut répondre par oui ou par non? Est-ce qu'elles peuvent développer une proximité? Ça va être oui, ça va être non. Super. Est-ce que c'est trop évident? Est-ce que c'est pas trop évident, pour dire comme ça? Peuvent-elles, a priori, les radios nationales, elles ne sont pas dans la proximité. C'est les radios locales qui sont dans la proximité. Hein? Dans la thématique normale, les radios locales font la proximité, les radios nationales font le reste. Ok, on est d'accord. Donc la question n'est vraiment pas évidente. Ça marche. Le 5, c'est les limites à la réflexion au corpus. Les radios nationales, on n'a pas tant que ça. On en a 4-5, non? France Inter, Europe 1, RTL, RMC. J'arrive à 4, vous voyez, j'ai 4-5. Bon. C'est à peu près tout. Bon, ok, donc le corpus, il est à peu près correct. Les radios locales, on suppose que ça ne va pas se dérouler sur toute la France. Alors là, on est tout à fait dans ce qu'il y a tout à l'heure. Est-ce que la fille qui a fait ça a dit qu'elle causait chez Active Radio Saint-Etienne? Niette. Parce que les radios locales de proximité pour toute la France, vous dites, il faudrait écouter ce qui se fait à Brest, à Strasbourg, je ne sais pas où, ça fait un tour de France des radios, même si on les a par le web parfois, c'est pas simple quand même. Donc, la restriction, c'est de dire que ce ne sera pas les radios locales de toute la France. Et là, c'est sa liberté d'avoir laissé un peu de flou dans la problématique, de façon à ce que elle ménage du suspense, vous voyez. Et là, au jury, si on avait été casse-pieds, ce n'était pas le cas, on a pu dire.
Oui, mais ne pensez-vous pas que dans la problématique, il eût fallu préciser davantage que les radios de proximité pour parler sur les radios locales?
Les emmerdeurs. On n'a pas joué ce jeu, bien sûr. D'accord? Donc c'est vous qui voyez, si vous prenez le risque, qu'on vous embête un petit peu en disant
mais c'est pas assez précis.
Ou si au contraire, vous ne vous mettez pas compte. C'est votre problème. C'est votre liberté. Et quand on construit sa problématique, c'est comme on est libre. Lâche-moi. Sixièmement, stratégie de réponse. Alors, est-ce que les radios peuvent-elles développer une proximité avec leurs auditeurs au même titre que les radios dites locales? Est-ce qu'il y a une stratégie de réponse? Alors, au même titre que les radios locales, enfin dites locales, hein.
Ça suppose qu'on a déjà étudié quelles sont les stratégies, comment s'y prennent les radios locales pour avoir de la proximité. On va voir ça comment? Comment dans la programmation, comment dans la publicité, comment dans le marketing, comment vous voyez les trucs, comment s'y prennent les radios locales pour faire la proximité. On fait du micro-trottoir, on fait de la pub locale, on fait de la promo machin, on fait du couponing, rien, tout ça. Ok? Bien. Et on se dit, est-ce que les radios nationales, au-dessus, peuvent-elles développer une proximité? Alors, on va voir, est-ce qu'elles prennent les mêmes techniques? Et est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'elles ne prennent pas les mêmes techniques? Et est-ce qu'elles en ont des particulières? Ce n'est-il pas des stratégies de réponse à la question, c'est ce que je suis en train de vous dire? Vous vous rendez compte que sur ce sujet sur lequel, a priori, vous ne connaissez rien, et s'il y en a qui connaissent la radio, qu'on peut des... du truc avec la radio. Non, vous êtes forcément consommateur de radio, c'est le moins. Mais vous ne connaissez pas le monde de la radio. Sur un monde auquel vous ne connaissez rien, vous voyez déjà la qualité de la réflexion qu'on peut développer ensemble. Je vous aide un peu pour aller vite, hein, mais c'est quand même ça. On commence déjà à voir qu'elle va certainement se poser des hypothèses pour dire, au fond, comment s'y sont pris les radios locales pour faire la proximité. Ça va faire des tas d'hypothèses. Les radios locales, hein, ça serait des hypothèses du genre. Pour développer leur proximité, les radios locales ont fait, on ne sait rien, font un appel massif au micro-trottoir. Ok. Pour développer leur proximité, les radios locales font un recours massif au couponing et bons de réduction sur les commerces locaux. Ok. Vous voyez le genre d'hypothèse? C'est simple. Une fois que vous l'avez fait sur les radios de proximité, pour développer leur proximité, les radios nationales font-elles le même truc? Oui, non. Est-ce qu'ils font du couponing? On peut se douter que ce sera non. Est-ce qu'ils font du micro-trottoir? Ah! Eh bien, si vous regardez, ils le font tous. Depuis quelques années, RTL, Europe 1, RMC, un peu moins France Inter, mais ils s'y sont mis, font du micro-trottoir. Eux aussi. Et à défaut de faire du micro-trottoir, ils font de l'intervention directe. Donc, vous voyez comment est-ce que sur certaines des techniques de proximité, les locales gardent leur propre approche, tandis que sur d'autres, les nationales les prennent aussi. C'est-il pas des stratégies de réponse, ça? C'est-il pas dedans? C'est-il pas génial? Bah, vous pouvez dire si, c'est génial. Si je vous le demande comme ça. Mais vous sentez vraiment que c'est... C'est très fort quand on exprime une phrase comme ça. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte de la force du truc? 7. Est-ce qu'il y a un corpus? Ben, le corpus, non. On pourrait dire, ah tiens, cette superbe étudiante, magnifique. Super. Qu'est-ce que je dis super? Super étudiante. J'ai fait la correction super au sens mémoire. On va parler de super. Cette super étudiante, avec une belle qualité de réflexion, n'a pas pris en compte le critère 7 sur le fait qu'il n'y a pas là-dedans de corpus immédiatement visible. Oui, mais il y a une ruse. C'est dans l'introduction du mémoire et la présentation de la problématique, elle précisait qu'elle allait se servir de son expérience à Active Radio. Donc, le critère 7, il est quand même validé, sauf que pour ça, il ne faut pas le dire dans la problématique elle-même, mais dans, encore une fois, je répète, que soit vous allez au niveau le plus bas, le plus précis dans la problématique, si vous mettez les points sur les i, soit vous laissez un peu de généralité. Ça dépend de votre tempérament, de comment vous êtes. Et cette fille-là, elle a envie de donner un peu de valeur générale à son mémoire. Elle l'a fait, c'est super. Mais si elle avait fait le contraire en disant chef livre radio, je vous dis, c'est super aussi. C'est pareil. Bon, critère 7, il est passé. Le dernier critère, est-ce qu'il y a le 8 sur la temporalisation? Bah, il n'y a pas de problème de temporalisation, parce qu'on se doute que, bon, pour faire ça, elle va étudier ce que font les radios nationales, les radios locales. Il y a déjà une bonne habitude de la proximité, ouais, bon, c'est bon, ça ira. Les 9 et 10, on les laisse tomber tellement ils sont faciles. Résultat, la problématique de cette étudiante passe haut la main les 10 critères. Tranquille. Je vous souhaite d'arriver à ce degré d'élaboration de votre problématique. La question que vous pouvez vous poser, est-ce que cette fille est arrivée du premier coup? Ben là, la réponse, elle est très ambiguë parce que ça dépend des gens. Certains ont la capacité de, pratiquement du premier coup, trouver la problématique, et c'était le cas de... On s'appelle Marie-Maud. C'était le cas. D'autres, au contraire, vont faire 3, 4, 5, 6 essais, 10 essais, machin, discuter, ah ben non, voilà, bon. Franchement, qu'est-ce que ça peut faire? Si je ne vous le dis pas, est-ce que vous le saurez? Ça ne fait rien. Nous, ce qu'on voit, c'est le résultat. Quel effet? 12 tentatives avant. Ou 0, que ce soit la première. Ça la regarde elle par rapport à son investissement. Mais nous, lecteurs, on s'en moque. Vous avez une phrase merveilleuse du grand Michel-Angelo. Cette phrase, moi, je me la répète souvent. C'est un cadeau que je vais vous faire. Michel-Ange un jour a dit, il faut beaucoup de travail pour effacer les traces du travail. Une phrase merveilleuse. Il faut beaucoup de travail pour effacer les traces du travail. Quand on voit une grande œuvre, comme celle de Michel-Ange, c'est la perfection immédiate. Et bien sûr qu'on ne se rend absolument pas compte du travail, surtout pour les sculptures. Parce que c'est physique, la peinture aussi, mais les sculptures. Hein. Donc, quand vous taillez le marbre de Carrare, pas vraiment facile. Bon, c'est la perfection absolue. On ne se rend pas compte du travail. Bah, on ne se rend pas compte du travail dans une. Vous vous rendez compte, je compare Marie-Maud et Michel-Ange. Si elle le sait, elle va se dire. Hein, bon. Mais il y a un peu de ça. C'est un truc qui est parfait. Qu'est-ce que vous avez à redire une problématique pareille? C'est nickel. Parfait. Quand vous avez réussi à trouver un truc comme ça, en principe au moins, alors ça dépend si c'est lié au stage ou pas au stage, comme je l'ai déjà dit. Hein? C'est donc entre décembre et février de toute façon. Si c'est pas lié au stage, ça devrait être plutôt décembre ou début janvier, enfin voilà. Si c'est lié au stage, c'est un mois et demi après, c'est tout. Bon, donc il n'y a jamais qu'un mois, un mois et demi d'écart entre je l'accroche au stage ou je ne l'accroche pas au stage. Bon. Donc quand vous avez trouvé un truc pareil, bah, comme je vous dis d'ailleurs, hein, comme vous me l'envoyez, quand je sais ou bien quand je le mets sur mes commentaires, je dis bah c'est super. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis comme commentaire, Marie-Maud? Puisque c'est public, c'est pas mal. Je suis mémoire. Alors, voilà. Zut. C'est assez gros, non? Je voulais peut-être le grossir un petit peu. Voilà, attention qui est l'auteur, vous parlez des auteurs, mais sinon ton direct appréciable, bravo pour le défi perso, donc elle est en session de défi perso, ok sur les annonces méthodo, sur la problématique, ok global, mais attention, est-il possible? Donc, vous voyez, il y a quand même des trucs à dire, si on y met les moyens, n'est-ce pas, presque toujours possible. Vous vous rappelez la problématique ou je vous la ressors? Parce que ça, c'était forcément, peut-être, alors je reviens... Peut-elle développer une proximité? Vous voyez l'évolution? Ça veut dire qu'il y avait quand même eu une phase où elle demandait est-ce que c'est possible? Là, c'était pas peuvent-elles développer, hein, c'était plus explicite sur le est-ce possible. Et moi, je critique en disant est-ce que c'est possible? Bah, si vous y mettez du fric, c'est toujours possible. Donc la question n'est peut-être pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut la poser. Je reviens. Voilà. Si on y met les moyens, n'est-ce pas presque toujours possible? Attention au style vocabulaire, cette caractéristique est une constitutive fondamentale de leur essence, est un élément fondamental, donc parfois je vous fais des corrections, vous voyez, est une constitutive, ça ne veut rien dire, ou cette caractéristique est un élément essentiel, bref, essayez de simplifier, d'alléger l'expression, ok, sur la discussion qui suit, sur les questions de proximité, essayez de voir. Alors bon, parfois je vais très très vite, hein, comment les grands journaux nationaux, par exemple les Figaro Libération, ont essayé de traiter la question. Donc là, je suggère qu'elle ne se centre pas sur la radio, qu'elle voit comment la presse écrite a déjà fait ça. Et je lui donne des exemples sur le Figaro à Lyon. Attention à l'expression de vos hypothèses, pour le moment encore un peu vague, que veut dire proche sur le plan sociologique, mais le lien avec l'information participative est bien vu, parfait. Ok, c'est bien, mais quelle différence faites-vous entre proximité territoriale et géographique? Donc ça, elle y a répondu. Ok, mais je crains qu'elle soit un peu trop large et difficile à valider.
c'était H4, hein, sûrement, il y a 2, 3, H3. Sous cette forme, ce n'est pas une hypothèse, cherchez les variables qui les différencient. Très bien pour examen, la combinatoire des hypothèses avec la problématique, c'est excellent. Pour les considérations générales sur la radio, intéressante, mettez quelques références, ok, sur la biblio.
Voilà le genre de truc qui vous reviendrait. Je précise bien, et je le repréciserai à chaque fois, que ceci est fait indépendamment du directeur de mémoire. Ceci est fait pour vous donner l'interprétation du président de jury. Ok ? Et que votre directeur de mémoire, bah, vous lui en parlez, enfin, vous faites votre cuisine comme vous voulez, avec lui, ça vous regarde. Alors, le cas où c'est moi le directeur de mémoire, ça ne change rien non plus, puisque je dis, je prends les deux rôles. D'accord ? Donc, c'est surtout pas, pour être précis, c'est surtout pas pour remettre en cause quoi que ce soit de ce que vous dites au directeur de mémoire. Hein. C'est à voir avec lui, bien sûr, comment est-ce que les choses peuvent s'organiser. S'il y a des questions, c'est le moment, parce que là, vous voyez, je vous traite ce matin un ou deux exemples, et j'ai pris Mario, parce que c'est la première, la liste alphabétique, c'est très simple. En plus, c'est une super problématique, donc c'est plus facile. Quel effet ça vous fait, ça? Vous dites, bah, c'est bon, c'est facile de se faire problématique. Bah, une fois que c'est fait, ça paraît évident, non? Quand on l'a lit. On a envie de se dire, bah ouais, quoi, c'est ce qu'il fallait faire sur un sujet comme ça, hein, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'une problématique, quand elle est bien posée, on se dit, bah ouais. Ça vous arrive, il y a des trucs en, je sais pas moi, dans les travaux, quand on fait des travaux de la déco chez soi, ça vous est pas arrivé ce truc? De se dire, bah, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Tellement c'est chouette, tellement c'est en équilibre, c'est harmonieux. Alors pour la déco, on connaît des mots un peu vagues, c'est harmonieux, blablabla. Vous voyez? Mais il y a de ça quand même, c'est le même réflexe. C'est-à-dire que c'est en harmonie, guillemets, en phase, en relation, avec ce qui existait. Parce que ça vient au bon moment et avec une importance, la qualité qu'il faut.
Voilà donc un premier exemple de problématique. On peut s'en prendre un deuxième si vous voulez, mais enfin je ne vais pas vous faire le petit jeu pour chacune hein, des problématiques parce qu'on aura du mal à finir. Alors, Laurent Chaise. Chez Altavia, là c'était Active Radio, hein. Autour du pôle retail, assure le suivi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis trompé, voilà, alors, lors de l'endossement publicitaire, alors, le mot endossement, par les célébrités, le choix de la célébrité suffit-il à la réussite de la publicité à l'exemple des sportifs associant leur image à des produits alimentaires?
Alors, ça passe au critère 1. Ouais, c'est une question. Le critère 2. Compréhension, l'endossement publicitaire. Le mot endossement, qu'est-ce que c'est que ce bidule? C'est juridique, hein. Financier et juridique. Bon. Par les célébrités, c'est-à-dire on signe des contrats, quoi. Le choix de la célébrité suffit-il, la célébrité donc de la personne, hein, déjà la réaction, on sent, c'est pas tout à fait aussi bien. Hein, pas tout à fait aussi bien. Suffit-il à la réussite de la publicité? Bon, alors le choix de la célébrité suffit-il à la réussite de la publicité, à l'exemple des sportifs associant leur image à des produits alimentaires? Ah non, un peu de mal à comprendre la phrase quand même. Hein. Vous sentez qu'elle est un peu. C'est un peu vacillant, non? Voilà. Première problématique, la perfection. Deuxième problématique, ça accroche dès le critère 2. Et là, j'ai pris l'exemple du tir au pigeon tout à l'heure pour dire, ben, alors, je prends pas le pigeon d'argile, je prends le vrai pigeon, vu qu'on était cruel. Et ben, il s'est reçu quelques plombs dans une aile de la pigeon. Il ne vole pas bien, quoi. Et il risque fort de se racher. Et on peut faire ça sur la ligne, on peut dire, ouais, ça passe pas bien, mais bon, allez, on va faire comme si. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas clair. De fait, je peux vous dire, hein, bon, vous avez les noms, mais c'est, j'aurais peut-être dû anonymiser, mais juste entre cette un de Marc et celui de Marie Maud avec une très jolie note. Celui de Lorraine. Ça passait déjà pas bien le 2. Le critère 3,
Est-ce que ça le passait? Oui, non. Suffit-il à la réussite? Oui, bien sûr. Le cas sur l'évidence, il y a un petit peu d'évidence quand même, bien sûr. Parce que si vous prenez quelqu'un de très célèbre, vous aurez forcément du retour, au moins au début. Il y a même pas mal d'évidence là-dedans. Le critère 5, ça devient grave, parce que quelle publicité marketing, c'était ça, publicité marketing, est-ce qu'on prend? Ça a quand même accroché pas mal, et ce mémoire a été...
C'est quasiment le plus faible de la promo.
C'est bien, on est un des meilleurs, et tout de suite après, un des plus faibles. Je préfère passer du temps sur celui-là. Pas la peine de passer trop de temps sur un truc moyen. Ça n'avance pas. On va se terminer par du positif. Voilà. L'image perçue par la société française. Oh là là, c'est presque trop gros parce que ça fait du pixel. L'image perçue par la société française des moteurs dans leur globalité. Mince. Décrédibilise-t-elle les sports motocyclistes sur piste et ses représentants économiques, sportifs et médiatiques auprès des médias généralistes nationaux?
Ouf! C'est encore plus calé que Marie-Maude. Là, la phrase compréhensible, ouais. Et je vous disais tout à l'heure, c'est pas quelqu'un dans la rue, les gens
arrivent. Attendez, c'est quoi
le truc? Faut la lire deux fois, ou trois, c'est tout à l'heure. Bon, s'il faut vous la lire 12 fois, peut-être commencer une enquête ou pas. Mais s'il faut que vous la lisiez 2 ou 3 fois, c'est pas grave. Je vous rappelle que moi, il y a des passages de certains auteurs, il faut que je la lise 3-4 fois pour comprendre. Hein. Bon, donc, l'image perçue, blabla.
Je l'ai pas bien centré encore. Ouais, c'est mieux comme ça. L'image perçue par la société française des moteurs dans leur globalité, décrédibilise-t-elle les sports motocyclistes sur piste, c'est ça. Bon, ça passe. Le oui-non, décrédibilise-t-elle? Oui, non. Le critère d'évidence, waouh, c'est vraiment pas évident. La preuve, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite la question, donc c'est pas évident. Le cinquième, la limite, l'image perçue par la société française, waouh, grosse étude. Oui, mais là, la fille qui a fait ça avait des tas d'éléments bibliographiques pour voir qu'il y a des tas d'études qui ont été menées. Donc c'est pas elle qui a fait l'image perçue par la société française des motards. Mais elle avait ce qu'il fallait pour montrer que la société française percevait bien ou mal, plutôt mal d'ailleurs, les motards. Donc, c'était sous-traité. Ne laissez jamais sous-traiter quelque chose. Quand vous avez des bonnes études, des bonnes enquêtes dans des articles, vous prenez ça, vous l'appropriez, en citant les auteurs, bien sûr. Vous l'appropriez, c'est pas du vol. Vous l'appropriez, et vous allez prendre ça comme élément important de votre mémoire, par exemple, de certaines de vos hypothèses. Ce qu'elle a fait. Marine, hein, c'est Marine qui a fait ça. Et donc, Le critère 6, alors là, il est complètement dedans. L'image perçue par la Société française des motards. Premier boulot, quelle est l'image de la Société française pour les motards? Dans leur globalité, deuxième boulot, on perçoit motard avec un nom générique. Mais là-dedans, il y a des tas de sous-catégories. Il y a les gros cubes, les petits cubes, les gnagnagnas, etc. Bon, décrédibilité des sports motocyclistes sur piste. Quels sont ces acteurs et ses représentants économiques? Donc, il faut voir les grandes marques, etc. Comment les grandes marques s'y prennent par rapport à ça? Auprès des médias généralistes nationaux, il faut étudier comment les médias généralistes nationaux vont rendre compte des motards. Tout est dedans. Tout est dans la question. À partir de ça, il n'y a plus que 150 pages de boulot à se taper. Les questionnaires, les interviews, machin truc, chouf, chouf, chouf. Vous savez combien? 18. Marie-Maude, on va lui monter à scène. Ouf! Ça vous laisse un peu songeur, hein, quand même. C'est beau l'intelligence. Mais c'est ça qu'il faut dire, c'est l'intelligence. C'est de l'intelligence pure, ce truc. Pour être capable de sortir une phrase pareille, l'auteur, on sait que c'est quelqu'un de super bon, et qui a une capacité à modéliser, à trouver les variables, et puis après s'organiser pour répondre aux questions, bien sûr. Il y a toutes les questions que vous posez la mémoire. Et le gars, en plus, je vous demandais peut-être, est-ce que cette fille au moins a fait de la moto?
Même pas!
Bon.
ce milieu, ses parents ou autres, ce matin. Mais elle, pour l'instant, ne fait pas de mot orthodoxe encore plus marrant, donc c'était même pas une passion du genre je suis motard, motardeux, bon, à voir. Je suis motard, et donc c'est ma passion de tous les jours, non, même pas. Super boulot. Alors, aussi, encore un. Bon, on s'arrêtera là. Un autre attrait des mémoires, c'est que ça vous fait connaître des gens. Parce que bien sûr, pour faire ce genre de travail, vous allez interviewer les gens qui comptent dans le milieu professionnel considéré. Et vous n'allez pas y aller pour faire une enquête à l'album, pas du tout. Vous avez des questions sacrément intelligentes. Et souvent, d'ailleurs, c'est associé au stage. Là, ça n'était pas le cas. Mais ça peut être associé à des stages, voire à des emplois. Parce que quand on se fait repérer pour cette qualité-là d'analyse, vous pensez bien que vos interlocuteurs disent « Oh, cet étudiant ou étudiante, il y a quelque chose là-dedans. » Vous voyez ? Vous voyez, c'est simple finalement, ma mémoire. De M1. Vous devriez arborer des mines réjouies. Enchanté, en disant, ben voilà, c'est mon boulot à faire dans mon sujet à moi qui m'intéresse, bien sûr. Hein. Mon thème, mon sujet. Et vous avez tous les autres à disposition, hein, bien sûr. Avec là-dedans des très très bons. C'était une bonne promo. Cette promo de M1, c'est une bonne promo. Et vous avez vraiment des jolis sujets. Voilà, l'événement. Si elle est mise en place par Logistique 42, est-il un outil stratégique de communication suffisant pour diffuser l'image logistique? La communication peut-elle être un moyen efficace pour fidéliser le public existant, attirer de nouveaux liens, etc. La mise en place d'un événement. Vous comprenez que quand on arrive à ce niveau-là.
Allez, c'est mon dernier mot pour ce matin. Il peut être permis de rigoler de ceux qui pensent qu'une problématique, il ne faut pas répondre par vous. On se marre en disant vous avez des problèmes à faire dans la vie. Enfin, moi, je me marre. Si vous sentez ça, c'est déjà plus efficace. Vous n'avez pas de problème.
Bien, ben voilà. Donc, pour aujourd'hui, on aura fait le niveau 1. Je vous ai fait cadeau de la grande théorie qu'on verra plus tard, hein, enfin, sur les concepts. Ok, bon. Eh bien. Il est 11h59, me dit l'ordinateur. Bah c'est pas mal pour une fois, j'ai même pas mis. Ok. En plus, il ne faut pas que je sois en retard parce que je vois monsieur de manger.